Chapitre 12. Je reçus la semaine suivante une lettre de Madame Bardusac. Après quelques considérations préliminaires, elle m'annonçait le mariage du docteur Bordet avec la fille d'un viticulteur charentais, 300 000 francs de dot, autant à lui revenir plus tard, beaucoup d'acquis mondains, énormément de chic et un oncle nanti de relations influentes. Mariage parfait de toute façon. Le docteur est radieux. Je pensais avec beaucoup de calme. Allons, tant mieux pour lui. Très sincèrement, je ne le regrette guère. Il était beau parleur, pas méchant garçon, je crois, d'intelligence moyenne, mais assez bien cultivé, et de caractère banal, je le crains. Sans doute n'aurais-je pas été malheureuse près de lui, et pas très heureuse non plus. Madame Bardusac, en terminant sa lettre, ne se privait pas de me lancer des pointes à propos de la recherche dont j'avais été un moment l'objet. Elle pensait sans doute que j'avais emporté de l'argillier, une blessure inguérissable, et, charitablement, elle venait envenimer cette plaie supposée. Mais elle eût pu se convaincre qu'elle perdait son temps si elle m'avait vu lire paisiblement cette lettre dans la salle de la métairie où Catherine se préparait à servir le déjeuner. Angélina boudait aujourd'hui selon une trop fréquente habitude. Cependant, je vis son visage s'éclairer un peu quand son père prononça le nom de M. de Trézonne en m'annonçant que l'acte de vente était prêt. « Il faudra que vous alliez un de ces jours chez le notaire pour signer, Mademoiselle Gilette, » ajouta-t-il. « Bien, pardon, mais je regrette mon joli pré quand même. J'y suis passé hier. Les petites pousses vertes commencent à paraître sur les arbres et dans 15 jours, ce sera délicieux. » « Mais rien ne vous empêchera d'y aller, dans celui-là ou dans les autres, à votre convenance. Vous n'aurez qu'à pousser la barrière et vous n'y trouverez personne pour vous gêner. » Je secouai la tête. « Oui, je sais bien, mais ce ne sera plus mon pré. »« Dame, si vous voulez, mademoiselle, il est encore temps. Rien n'est signé. » »« Non, non, Bardôme, ce ne serait pas raisonnable dans ma situation. » « Vous me dites que cette vente est avantageuse et peut-être, si j'avais besoin de la faire plus tard, ne retrouverais-je pas le même prix ?»« Ça se pourrait bien. Il est gentiment payé comme cela, car il n'est pas bien grand. » Il eut un petit rire amusé en ajoutant « M'est avis que M. le Vicomte n'aurait pas été aussi coulant si le prêt avait été au père Bardôme au lieu d'appartenir à une jolie demoiselle de son monde. » La réflexion m'agaça et je ripostai avec un peu d'impatience. D'après ce que j'ai entendu dire de M. de Trézonne, je ne crois pas qu'il s'arrête à des considérations de ce genre. Ça, je ne sais pas. C'est une idée que j'ai eue en le voyant m'offrir tout de suite ce prix-là que je n'aurais pas osé lui demander pour sûr. Je vis le regard d'Angélina se glisser vers moi, jalouse et méfiant. Un peu dédaigneusement, je détournai le mien. Croyait-elle que je me souciais, comme elle, d'être remarqué du châtelain? Mais ce Bardôme avait vraiment des idées ridicules. Je retournai cet après-midi-là chez M. Rouchaine. Il faisait un froid gris, pénétrant, et je trouvai dans la grande salle un beau feu de chêne. Il me fit asseoir dans un fauteuil, approcha une petite table et alla chercher la broderie dont je voulais reproduire le dessin. Tandis que je travaillais, nous causâmes du pays, de ses habitants. Mon hôte me raconta des épisodes des guerres vendéennes, dont plusieurs avaient eu pour théâtre Saint-Jean de la Bottellerie et ses alentours immédiats. Je me trouvais bien dans la vieille salle au plafond enfumé, au mur couvert d'une peinture brune, écaillée, sur laquelle la chaude lumière du foyer jetait de mobiles clartés. Dans la pénombre étincelait une ferrure d'armoire, le canon d'un fusil pendu entre deux fouets de chasse, en panoplie, le cuivre d'un bougeoir sur une encoignure. Un chat gris zébré de noir s'étirait devant le foyer. Près de moi, sur la petite table, M. Rouchaine avait posé un vase de faïence contenant les premières violettes de son jardin et leur parfum discret se répandait autour de nous, dans l'air tiède de la grande pièce, assombri par ce jour maussade. Un tintement de sonnette annonça que quelqu'un ouvrait la barrière du petit jardin précédant le logis. Un pas ferme fit grincer le gravier. M. Rouchaine pencha la tête, écouta et dit tranquillement « C'est M. de Trézonne ». J'eus un sursaut léger et le tulle que je tenais faillit me glisser des mains. Je balbutiai. « Monsieur de Trézonne, alors je vais vous laisser, monsieur, je viendrai un de ces jours. » « Mais quelle idée, ma chère demoiselle! Vous ne nous dérangez pas du tout. Monsieur le vicomte vient simplement me faire une petite visite, comme il en a coutume, et nous n'avons aucun secret à nous dire. » Il se leva et alla vers la porte, couvrait à ce moment une main décidée. Monsieur de Trézonne entra. Il eut, à ma vue, un léger mouvement de surprise, serra la main de Monsieur Rouchen avec un bref « Bonjour, mon vieil ami !» puis vint vers moi et s'inclina, avec cette courtoisie un peu altière que j'avais déjà remarquée chez lui. Oh, désolation, voilà que la rougeur maudite me montait encore au visage. Le vieillard expliquait d'un ton paisible « Mademoiselle Darbier veut bien me faire l'honneur de visiter un vieux bonhomme comme moi. En ce moment, elle copie une broderie de ma défunte, comme vous voyez, monsieur Guy. » « Je vois, en effet, ce dessin paraît fort beau. » Il se pencha et prit un des coins de tulle. Il avait de belles mains, longues et nerveuses, dont les mouvements devaient être adroits, nets, autoritaires. Un très léger parfum me monta aux narines, plus proche, plus subtil que celui des fleurs voisines. Puis le tulle retomba sur mes genoux et M. de Trézonne prit le fauteuil que M. Rouchen avançait près du feu, en face de moi. « Vous plaisez-vous dans notre pays, mademoiselle ?»« Mais oui, monsieur, beaucoup. Il paraît que vous êtes en train de devenir une fermière parfaite. » Je ris avec un peu d'embarras. « Qui donc vous a conté cela ?»« Votre métayer et aussi notre hôte, ici présent. Permettez-moi de vous en féliciter. Ceci est d'un excellent exemple pour notre jeunesse féminine. » Si elle voyait beaucoup de femmes de notre monde quitter la ville pour s'adonner à l'existence de la campagne, elle réfléchirait peut-être davantage avant d'abandonner le pays. M. Rouchen secoua la tête. Peut-être, la ville les fascine et les parents n'ont plus d'autorité pour les retenir. Voyez les bardômes comme ils ont élevé leurs filles. Oui, je leur en fais mon compliment, aussi sotte qu'effrontée, ce qui n'est pas peu dire. Les mots tombèrent nonchalamment des lèvres dédaigneuses. Je compris qu'il n'ignorait pas les sentiments d'Angélina, que celle-ci avait dû imaginer quelques ridicules et humiliantes manœuvres de coquetterie pour le renseigner à ce sujet. J'en ressentis pour elle une confusion si vive que la rougeur de mon visage s'accentua. J'essayai de détourner les yeux, mais ce regard profond et froid les retenait. Tandis que notre hôte nous faisait du café, M. de Trézonne se mit à parler des progrès de l'agriculture, des améliorations encore nécessaires. Puis il passa à l'histoire de la Vendée, toucha des questions littéraires. Sa voix, en dépit des notes brèves, avait des inflexions agréables qui ajoutaient à l'attrait de sa causerie très documentée, dénuée de tout pédantisme. On sentait chez cet homme la plénitude d'une intelligence extrêmement cultivée, nourri de réflexion et déjà d'expérience. Quand il parlait ainsi, son regard s'animait, s'éclairait d'une sorte d'ardeur dominatrice. Et il vous prenait, il vous prenait. Voyons, étais-je folle? C'étaient les sottes idées de Bardôme qui me revenaient à l'esprit et me troublaient ainsi chaque fois que s'attachaient sur moi ses yeux dont j'ignorais la nuance. Brun, vert, gris? Non, je ne pouvais me prononcer. Mais il y passait à certains moments comme une clarté de vie concentrée, profonde, violente, et alors je croyais les voir pleins de lueurs fauves, tandis que le visage mat et viril, les lèvres fortes d'un rouge sombre, restaient froids, durs, sans frémissement. Sur le désir courtoisement exprimé par M. de Trézonne, j'avais repris, tout en causant, le tracé de mon dessin. Mais l'ouvrage n'avançait guère, ma main n'avait plus la fermeté accoutumée, et je finis par dire « Si vous le permettez, monsieur Rouchen, je reviendrai un de ces jours terminer ceci. Il fait trop sombre maintenant. » Oui, le temps est bien vilain. Revenez quand vous le voudrez, mademoiselle, et le plus vite possible. Je serai toujours bien heureux de vous voir. Je me levai et pliai le tulle brodé. Mes mouvements étaient nerveux, inégaux, parce que je sentais que monsieur de Trézonne me regardait. Lui aussi s'était levé. Il s'adossait à la cheminée et croisait les bras sur sa poitrine. M. Rouchaine, de son petit pas alerte, allait me chercher mon chapeau, mon manteau, déposés à l'autre bout de la pièce, et s'informait avec une sollicitude paternelle si j'étais assez couverte. Parce que, voyez-vous, il fait un froid qui pénètre partout. Si je vous donnais encore une petite tasse de café bien bouillant. Oh, merci, monsieur, j'ai très chaud et je vais marcher vite jusqu'à la meulière. Alors, emportez ces violettes, elles vous parleront du printemps, en route, et vous vous figurerez voir le soleil. Attendez, je vais aller chercher un mouchoir pour vous les envelopper, car elles sont toutes mouillées. Inutile de vous déranger, mon ami, j'ai ce qu'il faut. Monsieur de Trézonne, décroisant les bras, prit dans une pochette de son veston un petit mouchoir de soie bleue. Je protestai aussitôt. « Mais je vais les emporter comme cela, dans un papier, simplement. Je vous en prie, monsieur. » Sans m'écouter, il alla vers la table, enleva délicatement du vase les violettes et entoura du mouchoir leurs tiges mouillées. Cela fait, il me tendit le bouquet que je pris d'une main hésitante. « Merci, monsieur, je vous ferai porter ce mouchoir. »« Oh, mademoiselle, c'est inutile. Quand vous reviendrez ici, rapportez-le à monsieur Rouchaine, qui me le remettra à notre prochaine rencontre. Cela n'a aucune importance. » Les deux hommes, malgré mes protestations, voulurent m'accompagner jusqu'à la petite grille. Je serrai encore la main du vieillard et répondis au salut de monsieur de Trézonne. Puis je pris d'un pas vif le chemin de la meulière. Comme ces violettes embaumées, je les approchais à tout instant de mes narines, sans savoir au juste quel parfum je cherchais ainsi. Celui des fleurs, ou l'autre, la senteur discrète et subtile du petit mouchoir bleu. Et je pensais à cette rencontre, aux paroles échangées, à la physionomie d'homme que je venais de voir pendant plus d'une demi-heure, en face de moi, que j'avais bien vu cette fois. Oui, je comprenais maintenant la séduction que M. de Trézonne, même sans le chercher, pouvait exercer sur une âme féminine. Moi-même, si je n'avais été prévenue, j'aurais pu, peut-être, être prise. Qu'était-ce donc ce parfum? Il était délicieux, un peu grisant. Je ne voulais plus le respirer, car il me montait au cerveau. Quand je fus chez moi, je retirai vite les violettes du mouchoir, pliai celui-ci et le rangeai dans un coin de mon armoire en me promettant de ne pas oublier de le porter lors de ma prochaine visite à la Sauvée. Puis je me mis au travail, mais ma pensée, comme obsédée, retournait sans cesse à la salle sombre où la flamme de l'âtre projetait de grands éclats de lumière sur un beau visage viril, sur des yeux de domination, d'énergie froide, orgueilleuse, concentrée. Je pris tout à coup mon front à deux mains, en songeant avec inquiétude. « Mais voyons, est-ce que cet homme m'a jeté un sort, comme disent nos paysans ?